Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast de celles et ceux qui en écoutent et qui en font. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely, la créatrice du podcast, et comme un jeudi sur deux, c'est moi que vous retrouvez dans Génération Podcast dans un épisode dans lequel je tends mon micro à des pros du monde du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un duo de créatrices de podcasts donc, et d'enquêtrices assez incroyables. Il s'agit d'Adèle Imbert et d'Émilie Denêtre qui ont ensemble fondé Insider Podcast. Elles se sont rencontrées un peu par hasard à Brest. Ici, c'est Brest, au festival Radio Longueur d'onde en 2018. Et elles ont bien accroché, comme on dit. Quelques mois plus tard, l'une d'entre elles tombe sur un sujet dont elle aimerait faire un podcast. Et elle recontacte sa future nouvelle collègue. Ensemble, elles réalisent donc Les Petits Revenants, pour Boxon, un docu sur les enfants français en Syrie, et c'est le début d'une grande histoire de collaboration. Vous allez l'entendre, Adèle et Émilie sont généreuses dans leurs explications et cerise sur le gâteau, elles ont plein d'excellentes recommandations podcast à vous livrer. Pour commencer, j'ai demandé à Émilie de nous présenter son acolyte Adèle, puis à Adèle de nous parler d'Émilie.
Alors Adèle, elle a fait des études de droit qu'elle a commencé à Lyon. Elle a tout de suite beaucoup voyagé parce que je sais qu'elle est allée faire une partie de sa licence à Manchester. Et après, elle a fait une école de journalisme, qui est l'école de journalisme de Paris. Et là, elle a eu l'occasion de compléter en fait son cursus aux États-Unis. Et donc, en fait, aux États-Unis, et ça m'étonne pas, elle a appris des techniques très différentes de ce que nous, on apprenait en école de journalisme en France, notamment en termes de récits. Et c'était le moment où il y avait le boom du podcast. Et en fait, elle a même pu avoir des cours avec des gens qui étaient en train de faire des podcasts, qui étaient en train, en fait, quelque part, de créer la patte et de ce qu'allait devenir en fait le podcast. Et là, en fait, elle a pu finalement découvrir à quel point sa formation juridique et le fait de savoir raconter des histoires pouvaient parfaitement matcher. À la fin de son cursus double Columbia et l'école de Sciences Po de journalisme de Paris, elle a pu travailler sur un premier cold case dans un centre à Chicago. C'était l'histoire d'un bébé secoué et la mère était évidemment en détention et on s'est aperçu que, grâce à l'enquête d'Adèle, que le bébé avait visiblement des problèmes dès le départ, en fait, des malformations. Et du coup, grâce à son enquête, la maman a pu avoir la révision de son procès et être libérée. Et à son retour en France, c'est dans cette idée-là, en fait, qu'elle revient avec cette idée de pouvoir insuffler ce qu'elle a pu apprendre en termes de patte narrative. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Alors, avant de revenir en détail sur cette fameuse rencontre, Adèle, à toi de nous présenter Émilie.
Bah, Émilie, c'est une journaliste brillante et extrêmement rigoureuse, qui a une force de travail incroyable. Et par plein d'aspects, elle est aussi très complémentaire. Elle est diplômée en ethnologie, en histoire. Puis ensuite, elle a travaillé comme reporter en France pendant presque 7 ans à Europe 1. Donc voilà, elle a plein de choses et un savoir-faire technique, une expertise du terrain, une expertise aussi journalistique très franco-française qui, dans ce sens, est très complémentaire de des expériences que j'ai pu avoir. Et on s'est rencontrés à un festival de radio, donc au festival Longueur d'onde, quand je rentrais des États-Unis. Et en fait, Émilie, à ce moment-là, travaillait comme freelance, puisque après Europe 1, elle a travaillé comme journaliste en freelance dans la presse écrite, notamment, pour justement retrouver le long, le format long qu'elle n'avait plus à la radio. Et donc, elle avait commencé à travailler pour Boxon, pour faire des premiers formats de podcast pour ce studio qui venait juste de se créer avec le studio de Pascal Clark et de Candice Marshall à l'époque. Et on s'était rencontrés dans ce contexte à Longueur d'onde et on avait bien, bien discuté. Et puis un jour, Émilie me rappelle et elle me dit « Écoute, j'ai vu passer une circulaire gouvernementale dont personne ne parle, qui dit qu'on a... » 500 mineurs français qui sont sur le territoire syrien, qui ont soit été emmenés par leurs parents radicalisés là-bas, soit qui sont nés sur place. Et elle me dit, moi, je pense que je vais en faire un papier, mais j'aimerais en faire autre chose. Et je pense qu'il y a un gros potentiel pour en faire peut-être un podcast. C'est comme ça qu'est née notre première collaboration. Et moi, j'avais en tête cette envie, cette volonté de créer des formats de podcast et peut-être une autre manière de narrer du journalisme d'investigation. Moi, à ce moment-là, j'étais à la cellule d'investigation de Radio France. Et tout ça, autour de cette histoire proposée par Émilie, d'un seul coup, ça a été bien plus, en fait. Ça a été la projection dans autre chose et une collaboration au long terme, sur du long terme, et la création d'Insider Podcast.
Box son.
Ils sont environ 500. On les attend, et certains sont même déjà là, parmi nous. Ils, ce sont ces enfants qui reviennent d'un périple un peu particulier. Ils viennent de passer plusieurs mois, voire plusieurs années en Syrie, aux côtés des combattants de Daesh. Leurs parents ont quitté la France, souvent de façon précipitée, dans l'espoir de faire le djihad, la guerre sainte pour l'islam. Avant de se retrouver sur un terrain de guerre, ces gamins étaient comme les autres, comme les vôtres. Ils allaient à l'école, faisaient du sport, jouaient sur la plage l'été. On va vous raconter l'histoire de ces familles. Cette histoire, c'est une histoire presque banale. Ce sont des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires de rupture. Cette histoire, c'est celle d'Andrea, de Jeanne et des autres. Des histoires de mères qui s'imaginent héroïnes des temps modernes et décident de tout lâcher, tout quitter, tout sacrifier pour un idéal macabre.
Nous avons enquêté plusieurs mois pour essayer de retracer la vie de ces femmes et de leurs enfants. Nous avons passé du temps avec leurs proches pour tenter de comprendre leur choix de mère. Le choix du départ en Syrie d'abord, et pour certaines le choix du retour. Comprendre aussi le sort des enfants, victimes des décisions de leurs parents, victimes de la propagande djihadiste. Des enfants déracinés, confrontés à une réalité tellement différente de leur quotidien d'écolier français. Des enfants aussi parfois ramenés en France, où ils doivent alors se réinsérer, se réadapter.
Alors là, c'était vraiment la volonté de créer entre deux enquêtes un format peut-être moins lourd et moins compliqué à produire, qui est un pur format documentaire, voilà, qui n'est pas du tout un format d'investigation, mais d'être toujours sur des sujets qui ont la patte Insider Podcast, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on est toujours encore sur un sujet judiciaire, police, justice, parce que sont un peu nos sujets de prédilection avec Émilie, et c'est autour de ces sujets-là qu'on a conçu Insider Podcast. Et puis, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler sur un projet autour de l'univers carcéral, sans forcément vraiment trouver quel sujet traiter. Et on a rencontré Eva Goron, qui est une ancienne avocate pénaliste, qui a décidé qui est en pleine reconversion professionnelle, et qui est venue nous voir en nous disant qu'elle adorait les contenus qu'on produisait et qu'elle aimerait produire quelque chose avec nous. Et on a commencé à échanger avec elle, et c'est autour de ces discussions qu'est née l'idée de donner la parole à des femmes anciennes détenues, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que on connaissait finalement peu de choses de l'univers carcéral en France, et encore moins de l'univers carcéral des femmes. La seule référence référence grand public, finalement, c'est Orange is the New Black, qui est une fiction et qui parle de l'univers carcéral des femmes, mais aux États-Unis. Voilà, donc c'est autour de cette histoire-là, de ces discussions, qu'on a eu envie de creuser un peu plus. Grâce à l'expérience d'Eva, on a pu avoir un réseau, on a eu accès à son réseau de confrères, consoeurs, avocats, avocates, qui nous ont mis en contact avec leurs clientes. Et le lien de confiance s'est créé aussi assez facilement grâce à cet intermédiaire-là.
C'est justement une question que j'allais vous poser. Ça a été difficile de convaincre ces femmes, en fait, de témoigner. Est-ce que c'est des témoignages qui ont été recueillis en une fois, ou est-ce que tu parles d'une relation de confiance au long cours qui s'est créée ?
Alors, en fait, au départ, vu que c'était Eva qui a fait travailler son réseau, ça veut dire que les avocats qui ont dit « moi, je connais quelqu'un, une femme qui a une histoire très intéressante », il y avait déjà en fait un premier lien de confiance entre l'avocat et la femme. Et finalement, le premier travail qui a été celui de dire Est-ce que ça vous dit ou ça te dit de rencontrer des journalistes qui travaillent, qui font un sujet? Finalement, c'est l'avocat de la personne qui avait fait ce premier, finalement, ce qui est souvent le plus dur, qui est ce premier acte. Ensuite, on a eu les personnes au téléphone une fois sans rien enregistrer. Là, on se présentait parce que voilà, elles avaient entendu parler de nous par leur avocat, mais alors de quoi, enfin qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, il y avait aussi Eva qui s'occupait avec nous de cette partie-là, qui remettait un petit peu les choses dans l'ordre. Elle avait été une ancienne avocate, elle était en lien avec leur conseil, voilà. Donc tout le monde se resituait bien en fait, et c'est très important, c'est tout bête, mais que les gens comprennent pourquoi on a envie de leur parler, en plus d'une histoire qui n'est pas simple, qui est plutôt douloureuse, pour en faire quoi, d'où on parle, qui on est. Voilà, prenez le temps, allez voir notre travail sur notre site internet, voilà ce qu'on fait, voilà qui on est. Et après, on laissait mûrir. Après, on rappelait, et là, si la personne était OK, on pouvait faire une pré-interview. Donc là, on lui demandait de nous raconter un petit peu son histoire. Donc souvent, c'était un flow de paroles qui arrivaient un petit peu souvent dans le désordre. Il y avait des fois de l'émotion, c'était des moments qui étaient assez forts, et après en fait on reconstruisait avec elle en disant voilà, cette partie là elle est hyper intéressante, il faut qu'on remette un petit peu les choses dans l'ordre, et puis ensuite seulement on se voyait pour recueillir au micro en ayant bien expliqué comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'un enregistrement, toutes ces petites choses en fait qui pouvaient les rassurer. Mais donc du coup au final quand on se rencontrait, on était presque très contentes de se rencontrer puisque ça faisait au moins 4-5 fois qu'on s'était eu au téléphone pour discuter, et puis en fait du coup c'était le moment où on aurait pu faire tout ça à distance puisque c'était un moment où il y avait encore la crise du Covid qui était assez forte, mais justement on avait tenu à ce qu'on puisse les voir en dernier lieu pour le moment du recueil de la parole au micro, et ça nous semblait important, et finalement ça s'est révélé très important d'avoir ce lien, d'avoir le regard qui était là pour des histoires comme ça si compliquées, et il fallait qu'elle dévoile quand même des choses pas simples.
Adèle Imbert et Émilie Denêtre ont donc travaillé sur une multitude de sujets, et vous l'avez compris, les sujets police-justice les intéressent tout particulièrement. Mais alors comment est-ce qu'on trouve ces prochains sujets ? Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'hypervigilance qui fait que dès que l'on entend parler d'un sujet, on a ce deuxième filtre d'analyse qui fait qu'on se demande « est-ce que ça, ce serait un sujet qui m'intéresse ?» Est-ce qu'on cherche un sujet qu'on va pouvoir résoudre, qu'on va vraiment pouvoir réinterpréter, réanalyser ? Ou est-ce qu'il faut qu'on soit touché ? Comment est-ce qu'on sait qu'un sujet est le bon ? Et j'irai même jusqu'à poser la question « est-ce qu'on sait vraiment qu'un sujet est bon ?» avant de se lancer.
Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que souvent nos enquêtes, elles partent d'envie et de questions, dans le sens où on sent qu'on a envie d'aller sur ce sujet-là parce qu'on ne comprend pas tout, parce qu'on trouve ça intéressant. Donc en fait, c'est vrai aussi pour détenus, en fait, on ne savait pas forcément ce qui se passe moi-même, je ne savais pas comment ça se passait effectivement, est-ce qu'il y a une cantine ou est-ce qu'il n'y a pas de cantine. Et donc souvent, dans 1000 degrés, on se dit « ah mais c'est vraiment très étrange ». Il dit qu'il est innocent, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est innocent comme ça pendant 25 ans, sans jamais scier devant ses enfants, devant un juge, devant qui que ce soit ? C'est des questions en fait très basiques, hein. Et puis pour le bateau Bugalet de Brest, c'est la même question, c'est est-ce qu'un accident est possible en vrai ? Pourquoi pas ? Et pourquoi ça serait autre chose ? Et donc en fait, c'est vraiment des questions, avant même d'être des questions de journaliste, c'est des questions de monsieur et madame tout le monde. Après, ça devient des questions journalistiques. Et en fait, on choisit nos dossiers à l'envi parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. En vrai, on ne sait pas. À chaque fois, on se met en risque. Hein. C'est ça qui est peut-être le plus difficile. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on n'est pas un centre qui prend X dossiers puis qui se dit « celui qui a le plus de chances d'aboutir ou celui où on a le plus de chances de trouver des choses, c'est celui-là, donc on le sélectionne ». Ce n'est pas vrai, en fait. C'est vraiment des questions au départ, une envie, puis après une mise en risque. Et je pense que cette mise en risque, d'ailleurs, elle se sent aussi parce qu'on a des hésitations, parce que justement, on laisse les gens nous suivre dans les pérégrinations, dans nos retournements, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on ne croit plus. Et si on avait aplani le dossier, si on était certaine du point d'arrivée à la fin, je pense que ça ne serait pas le même podcast.
Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que du coup, Insider Podcast investigue une multitude de sujets en parallèle avant de décider de se lancer sur telle ou telle affaire ?
Non. On n'a pas le temps. Enfin, ce serait dans un monde idéal, on aurait une équipe un peu comme le centre d'investigation où je travaillais aux États-Unis et dont parlait Émilie. Voilà, ça c'est le monde idéal. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est constituée à la fois d'étudiants en journalisme, d'étudiants en médecine et puis de journalistes. Tout ça est encadré par des journalistes professionnels et il y a déjà cette espèce de premier écrémage voilà, où en fait les dossiers arrivent directement au centre d'investigation tellement le centre est réputé pour son travail et la qualité de son travail. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On fait tout à deux avec Émilie. Du coup, effectivement, comme le dit Émilie, au départ, c'est un peu une envie pour le sujet de l'enquête, pour le fait divers en ce qu'il dit de la société à un instant T, pour des questions pratiques aussi, parce que si cette affaire à plus de 10 ans, peut-être que les sources vont être plus... peut-être qu'elles vont nous parler plus facilement. Peut-être qu'on va récupérer plus facilement les pièces du dossier d'instruction. Donc, il y a des éléments en termes de... Voilà, des éléments pratico-pratiques, des éléments aussi de l'ordre de... Est-ce qu'on a envie de passer plus d'un an sur cette affaire-là? Parce que ça joue aussi, évidemment. Ça aiguille nos choix. Après 1000 degrés, on avait envie de... Après l'affaire Massé, on avait envie d'une affaire très, très différente. Et on a aussi choisi cette affaire-là parce qu'elle avait des dimensions géopolitiques, parce qu'elle avait une dimension internationale, parce qu'il y a aussi des questions de secret défense. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que cette affaire était très différente de la précédente. Et voilà, c'est vraiment l'envie qui nous guide. Mais une fois qu'on choisit l'affaire, on ne peut se permettre de faire ce travail de pré-enquête seulement sur cette affaire-là.
J'imagine que vous avez des doutes, mais qu'il est important d'ignorer son avis avant de vraiment plonger dans l'enquête.
Ah oui, complètement. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est une règle à laquelle on s'astreint. C'est-à-dire que nous, on part du dossier d'instruction. Donc, on lit vraiment le dossier d'instruction dans la tête du juge, les actes qui sont faits. Et c'est hyper intéressant parce que c'est pas rare. C'était vrai notamment sur le Bugalet de Braise. Il y avait des articles qui avaient été écrits avant qu'on arrive sur l'affaire, bien évidemment, des livres, des enquêtes qui avaient été faites. Et on voulait pas être pollué. Et c'est vrai que c'est très intéressant, cet exercice de lire le dossier d'instruction, parce que du coup, nécessairement, ça prend... ça donne de l'épaisseur, voilà, à ce qu'on a pu lire. Et on se dit... Ok, il y a des pistes qui sont intéressantes, mais pourquoi ? Enfin, moi, c'est vraiment du coup à la lecture du dossier d'instruction, à la lecture du rapport du BEA, où on commence à se questionner, à se dire, et pourquoi ? Voilà, un accident peut être possible, c'est vrai que c'est très dangereux. Puis c'est vrai qu'on commence du coup après à s'intéresser au bateau, aux pièces du bateau, qu'est-ce qui est dangereux, quand est-ce que c'est dangereux. Donc ne pas avoir d'a priori, c'est hyper important pour justement pour rentrer de manière saine, en fait, dans le dossier. Si on cherchait à prouver quelque chose, c'est pareil, je suis pas sûre que ce serait le même podcast et je suis pas sûre qu'on fera le travail de la même façon. Et puis alors pour le coup, on est assez honnête avec nos sources, hein, on leur dit vraiment quand on va les rencontrer. Ils ont l'habitude de voir, sur certains dossiers, ils avaient l'habitude de voir des journalistes, sur le Bugalet de Braise, ils en avaient déjà vu. Et il y avait comme, ils voulaient savoir un petit peu des fois dans quel camp on était, d'une certaine manière. Hein. On leur disait, nous on sait pas pour le moment, en fait on sait pas, on vous le dira à la fin. Mais là, nous on voit tout le monde. Ah, vous voyez tout le monde? Ah bah oui, nous on voit... et la procureure, et les avocats, voilà, on fait le tour, et ça leur plaisait bien, au final, qu'on voit tout le monde, voilà, de se dire que, ok, elles reprennent tout, et on voit tout le monde, et puis la même intensité, hein, c'est vrai que d'aller voir un pêcheur ou d'aller voir la procureure de la République, c'est avec la même intensité journalistique et émotionnelle, donc et ça c'est super agréable, journalistiquement et humainement à faire.
Les corps de deux des cinq marins ont été repêchés après qu'un signal de détresse ait été capté par les gardes-côtes anglais en début d'après-midi.
Capitaine. Submarine.
They don't tell you how many vessels, aircraft, submarines. It's information we don't need to know, I guess.
L'homme qui est à la barre pense que ça va passer.
Et elle m'appelle, elle me dit, Michel, c'est pour toi, c'est Andrew qui veut te parler. Il me dit, Michel, il y a un souci, le Bugalet de Braise a chaviré.
Et au lieu de ça, ça passe pas.
L'enquête du BEA, elle a dit, c'est une croche.
La question de la manipulation, elle est très présente dans cette affaire.
La seule chose que l'on savait de l'histoire, c'était que Yves Gloaguin a appelé son collègue en disant « Fanche, je chavire ».
Si l'on reprend toujours cet exemple de En eau trouble, le podcast de Insider Podcast sorti en ce début d'année 2022, je ne peux m'empêcher d'y voir un grand nombre en fait de parallèles avec des séries télé. Il s'agit d'un podcast plutôt immersif, dans lequel chaque épisode est construit de manière à nous tenir énormément en haleine, à garder énormément de suspense. Le choix de musique est également très fort. Alors j'ai demandé à Adèle et Émilie de nous raconter un petit peu comment est-ce qu'elles construisaient leurs épisodes.
C'est effectivement, en tout cas, il y avait une vraie volonté dès le départ de réinventer la manière dont on raconte une enquête. Et je crois que ce qui nous guide aussi, c'est cette volonté d'être grand public. Et on s'est dit, en fait, pour que un auditeur et envie d'aller écouter une très longue enquête qui nous a pris beaucoup de temps jusqu'à la fin. Il faut que la construction, il faut qu'on aille choper des codes de la fiction pour y associer les codes en fait, du divertissement, mais avec toute la subtilité que de telles affaires, évidemment, impliquent, et de les injecter à de la matière journalistique brute et parfois extrêmement, et souvent d'ailleurs extrêmement technique et froide. Et voilà. Et ça fait partie aussi des techniques d'écriture que j'ai pu apprendre aux États-Unis, où moi je suis vraiment partie là-bas pour me former à ces techniques-là, des techniques d'écriture et de production propres au podcast, et qui s'inspirent complètement des codes du New Journalism, qui consistaient déjà historiquement dans le journalisme américain à l'écrit, à être dans un récit avec des codes narratifs qui se rapprochent là aussi de la fiction. Et c'est dans cette démarche-là qu'on a décidé de construire nos enquêtes avec cette idée d'avoir des éléments de tension, de suspense d'un épisode à l'autre, de cliffhanger, d'avoir une musique qui est créée spécifiquement pour le podcast, donc comme une bande son d'un film en fait, avec une scénarisation en fait de des épisodes et de notre travail journalistique.
Je voulais juste rajouter pour compléter ce que dit Adèle qu'il y a un côté en fait pragmatique, hein. Même si au départ ça peut un peu heurter journalistiquement de se dire on va injecter des codes du divertissement de la série télé dans un travail journalistique, même si ça pose question, ça remue journalistiquement, c'est des questions que moi je me suis beaucoup posées. Si on avait fait un papier de 40 000 signes dans n'importe quel magazine, ça n'aurait pas été lu jusqu'au bout et ça n'aurait pas eu cet impact. Donc, à partir du moment où l'idée, c'est on a travaillé, on est allé remuer des choses chez des gens qui, à un moment donné, avaient peut-être envie de laisser ces moments douloureux derrière eux, qui ont vu, pour l'affaire du Bugaïet de Brest, beaucoup de journalistes, par exemple. Et bien, à partir du moment où on fait ça, on s'engage, derrière, il faut qu'il y ait un impact. Et pour qu'il y ait un impact, il faut aller chercher les gens, il faut aller les agripper. Et on a toute une génération aujourd'hui qui est biberonnée à Netflix, à des cliffhangers, qui est habituée en fait, à avoir des séries véritablement de qualité. Et donc, tout le pari, c'est justement d'aller les attraper avec ces codes, mais après, de ne jamais, jamais se départir sur le fond en fait, de l'enquête, de manière à les amener jusqu'au bout, et qu'il n'y ait aussi jamais aucune confusion, c'est-à-dire injecter des codes de manière subtile. Après, toute la question, c'est jusqu'où on va. Les gens avec lesquels on a travaillé ne sont pas des personnages d'un scénario. Donc voilà, après, il y a tout le travail journalistique. On ne fait pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit parce que c'est mieux pour le cliffhanger. Non, évidemment. Donc après, c'est ça, il y a une forme de rigueur, de trouver exactement une ligne de crête, parce que c'est vraiment ça. Tu te reposes la question en permanence. Sur quoi je fais le cliffhanger? Est-ce qu'il est juste? Est-ce que ça correspond à ce qu'on a vécu aussi sur le moment, comment on présente ce personnage, comment nous on l'a ressenti, justement quand on arrive chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut laisser passer. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, Mais c'est vraiment du pragmatisme de journaliste. On savait que cette histoire-là, si on voulait emmener les gens, et peut-être des fois un public plus jeune, eh ben, il fallait faire comme ça.
Alors au final, combien de temps est-ce que cette enquête a pris ? Et à partir de quel moment est-ce qu'on commence à coucher ses idées et son déroulé d'enquête, d'épisode sur le papier ?
On démarre fin 2019. Disons que fin 2019, on se rend en Angleterre pour aller à l'inquest, donc cette procédure que l'Angleterre avait décidé d'ouvrir pour enquêter de son côté sur le décès des deux hommes dont les corps ont été récupérés par les secouristes britanniques. Là, à ce moment-là, on se rend sur le terrain sans avoir encore eu accès au dossier d'instruction. Mais on sent qu'il faut qu'on assiste à cette partie qui est quand même de la procédure qui est importante, qui nous semble importante à ce moment-là. Ensuite, on récupère le dossier d'instruction. Là-dessus, on s'est pris des confinements à répétition qui ont quand même retardé notre travail, mais qui nous ont aussi permis de se plonger complètement dans le dossier d'instruction. Et puis, on écrit vraiment une fois qu'on a récupéré toute la matière sonore, ou la plus grosse partie. Et on a écrit, donc on a eu lecture du dossier d'instruction, et puis le terrain, on s'est rendu plusieurs fois sur le terrain, donc en Angleterre, plusieurs fois en Bretagne. Là, on se retrouve avec des heures et des heures de rush, des centaines d'heures, je pense. Il faut tout dérusher. Et en fait, c'est au moment du dérush où là, déjà, on commence à prendre du recul sur la matière sonore, à pouvoir déjà établir les pistes qu'on a pu fermer, à l'inverse, les pistes qui restent un peu encore entrouvertes. Et puis, véritablement, le travail d'écriture, il s'est fait l'été dernier, au mois de... Ouais, je crois qu'on a commencé, on s'y est mis l'été dernier, mois de juillet. Et là, vraiment, c'est un premier travail d'écriture et une espèce de squelette des épisodes, avec, comme le disait Émilie, déjà... cette idée de se dire, OK, est-ce que cet élément-là, qui à un moment dans notre enquête était un élément de doute véritable, est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire le cliffhanger de tel épisode à tel épisode, etc. Donc il y a déjà tout ce travail de construction qui se met en place, vraiment à partir de nos éléments journalistiques, en termes de pistes journalistiques, mais aussi en termes de vécu de nous sur le terrain et vis-à-vis de nos sources. Et après, il y a beaucoup de réécriture, parce que on apprend finalement que telle source refuse de nous parler, donc on n'aura jamais cet élément-là, alors qu'on avait laissé un petit endroit dans le script exprès pour la réponse de cette personne. Voilà. Donc après, et puis au-delà de ça, il y a aussi tout ce travail de réécriture pour réussir à atteindre cette ligne de crête dont parlait Émilie, c'est-à-dire réussir à être très grand public dans le ton, dans la manière d'écrire, qui nécessite aussi beaucoup de pédagogie, parce qu'on est sur une affaire extrêmement technique, en plus avec l'affaire du Bugalette Brett. Et en même temps, ne pas tomber dans un ton justement trop pédago, à la limite d'une émission comme C'est pas sorcier, où on voulait pas ça non plus. Donc derrière, c'est beaucoup, beaucoup de réécriture.
Pour donner un petit peu des dates aux auditeurs, en gros, si on se travaille généralement un an, bon après, c'est pas toujours exactement juste, mais les périodes se chevauchent, mais on pourrait dire qu'il y a peut-être 7 mois de lecture du dossier et aller sur le terrain, rencontrer les gens. Après, il y a peut-être 3 mois d'écriture et 2 mois de post-prod. Voilà, pour se faire à peu près une idée globale, sachant qu'évidemment, ça chevauche et qu'on peut être en écriture et continuer en fait à devoir aller sur le terrain et ainsi de suite. Mais si je devais faire un gros camembert pour donner une idée, ça donne à peu près ça.
Comment est-ce qu'on écrit à deux ? Est-ce que votre processus d'écriture à deux a évolué justement depuis la première fois, depuis le projet avec les enfants en Syrie ?
Pas vraiment, en fait. On écrit à deux, en présentiel à deux, en fait, et sur un Google Doc partagé. Et il y en a souvent une qui prend la main pour commencer à écrire, l'autre qui recorrige derrière, puis après on se le dit à voix haute, et puis après on revient dessus, et ainsi de suite, en fait. Je ne sais pas si on pourrait faire ça à distance. Je ne pense pas. Je pense que c'est parce qu'on se parle et qu'on se regarde et qu'on se le dit à voix haute et qu'on se dit ça va ou ça va pas.
Et qu'on se raconte aussi, on est tout le temps en train de... Là aussi, on est très complémentaires parce qu'on a... On n'a pas toujours les mêmes souvenirs, par exemple, du terrain, ou pas forcément les mêmes souvenirs des perceptions qu'on avait eues de telle ou telle personne la première fois qu'on l'a vue. Ou voilà. Et en fait, nos échanges aussi nourrissent l'écriture et donnent de la chair aussi à une écriture qui peut être, encore une fois, voilà, très technique. Donc il y a aussi toujours cet ajustement qu'on trouve toujours à deux en échangeant entre le « il faut être hyper solide d'un point de vue journalistique, d'un point de vue technique et hyper éthique aussi, tout en étant dans l'humain, dans le visuel aussi, à travers les mots. » Voilà, on reprend aussi nos notes de terrain pour parfois juste se remémorer la couleur du polo que telle personne portait ce jour-là. Voilà.
La question du temps long me fait penser aussi au financement. Là, cette dernière enquête, vous l'avez produite avec ou pour Spotify. Est-ce que ça expliquerait justement le fait qu'on en a finalement pas tant que ça, des enquêtes d'investigation en podcast natif en France? Il y a notamment cette histoire de financement. C'est des enquêtes au long cours qui coûtent du coup assez cher.
Là, on a fait cette série pour Spotify, donc en exclusivité pour leur plateforme. Évidemment, travailler un an à quasi temps plein sur une enquête, c'est tout simplement onéreux en temps homme, en fait. C'est pas tant forcément les voyages ni l'équipement, c'est juste la mobilisation, en fait, à temps plein pour travailler, pour lire un dossier d'instruction. Et du coup, effectivement, c'est une évidence que du coup, de grandes radios, c'est compliqué pour elles de finalement déléguer une, deux ou trois personnes sur une seule tâche comme ça, ou même pour des journaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce sont plutôt des plateformes en fait, qui ont un autre mode de fonctionnement, qui peuvent réussir à avoir ce type de financement, parce que c'est à l'heure actuelle, en tout cas en France, sauf des mobilisations sur des grands dossiers, mais c'est très rare d'avoir des journalistes à qui qu'on peut se laisser un an pour qu'elles puissent travailler sur un dossier, et en plus sans certitude qu'à la fin il va y avoir forcément une résolution, ou voilà, c'est quand même très particulier quoi.
Et en même temps, c'est aussi très intéressant de voir qu'à l'étranger, certaines grosses rédactions ou certaines grosses entreprises font le pari, font ce choix-là, avec le New York Times qui vient de racheter Serial, Amazon qui vient de racheter Wondery, qui est quand même vraiment spécialisé aussi dans le true crime. Enfin, il y a aussi des modèles à l'étranger qui sont intéressants sur ce plan-là. En tout cas, de voir que le New York Times, par exemple, fait ce pari-là de l'enquête au long cours en podcast en rachetant Serial, je trouve que c'est très intéressant.
Alors justement, l'internationalisation, parlons-en. Est-ce que Insider Podcast pourrait envisager des enquêtes internationales?
Bon, on est ouverte à tout en fait. Donc oui, je pense que ce serait un beau pari, et ce serait une belle manière de transformer l'essai que de faire une collaboration internationale et d'envisager une enquête qui serait dès le départ pensée pour être diffusée en plusieurs langues, par exemple, s'il y avait une possibilité de trouver un mode de travail collaboratif, par exemple comme ça a été le cas avec le consortium international des journalistes d'investigation qui enquête régulièrement sur des grosses enquêtes comme les Paradise Papers à laquelle j'avais pu participer, par exemple. Ce mode de fonctionnement là serait très intéressant, je trouve, pour développer du podcast et du coup pour nous permettre de faire des podcasts en anglais aussi.
J'aimerais bien parler un petit peu de Insider Podcast. À quel moment est-ce que vous avez su qu'il fallait monter votre structure, que vous alliez continuer à travailler ensemble après cette première collaboration pour Boxon?
Moi, c'est un projet vraiment qui me tenait à cœur, que j'avais mûri aux États-Unis. Comme le disait Émilie tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression d'être au croisement parfait entre finalement ce qui m'avait intéressé pendant mes études de droit et tout ce qui me plaisait aussi d'un point de vue journalistique. Et j'avais l'impression qu'en France, dans mes études de journalisme en France, j'avais jamais eu cet aspect-là du journalisme. J'avais jamais appris à faire du journalisme d'investigation. J'avais encore moins appris à récupérer des codes de la fiction pour les injecter à un contenu journalistique. Et du coup, je suis rentrée en France avec toutes ces envies de créer quelque chose. Et j'avais un peu commencé à contacter les quelques studios de production qui existaient à l'époque. Et voilà, chacun avait trouvé déjà sa niche, son audience, sa manière de travailler, son mode de fonctionnement. Mais personne ne s'était encore positionné sur le podcast d'investigation et sur le true crime en particulier. Et après, tout a été assez évident avec Émilie. À partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, humainement et professionnellement, je me suis dit, s'il y a une personne avec qui j'ai envie de concrétiser ce projet que j'ai dans un coin de ma tête et qui, pour l'instant, est encore très abstrait, ce sera avec Émilie. Et voilà.
Donc, on a parlé de vos podcasts en votre nom propre, si je puis dire, qu'on a évoqué là depuis le début de l'épisode. Vous avez aussi travaillé sur Pandémie, le podcast du Monde et L'Heure du Monde. Est-ce que vous voulez m'en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Là, c'était un projet qui remontait aussi à loin, avec cette volonté de créer l'équivalent du Daily du New York Times avec Le Monde. Et puis, donc ça, c'est un projet qui remonte à 5 ans maintenant. Et à cette époque, Le Monde avait d'autres priorités en termes de stratégie. Et ils nous ont recontactés peu de temps, c'était là aussi en 2019, en nous disant qu'ils avaient envie de nous intégrer à un processus de brainstorming pour essayer de créer un format quotidien, en tout cas du lundi au vendredi, pour raconter l'actualité autrement. Et je pense qu'ils ont aussi fait appel à nous pour la patte narrative et la double casquette patte narrative et en même temps solidité journalistique. On a commencé à travailler avec eux de cette manière-là, plutôt en tant que consultante dans un premier temps. Et puis ensuite, le premier confinement a été déclaré. Donc là, on s'est dit, le projet va tomber à l'eau, il n'y aura jamais de Daily version Le Monde. Et finalement, Jean-Guillaume Santi nous a recontactés, donc le journaliste qui s'occupe des podcasts au Monde, en nous disant, essayons de faire quelque chose malgré tout. Lançons malgré tout un podcast à partir de tous les enseignements qu'on a pu tirer au fil de ces séances de consulting. Et c'est comme ça qu'on a lancé Pandémie, où là, on était vraiment productrice du podcast. On a accompagné l'équipe du Monde, on a réorganisé toute la production à distance et on faisait les enregistrements à distance, comme aujourd'hui. Ensuite, on faisait le pré-montage, le montage. Il y avait aussi l'accompagnement dans l'écriture des scripts. Et puis Pandémie a très très bien marché. C'est un podcast dont Le Monde, les équipes du Monde étaient vraiment très contents, qui a plu aux auditeurs, qui arrivait à un moment où finalement Pandémie a peut-être rempli une case à un moment très particulier dans nos vies et dans nos quotidiens. Et donc Le Monde a voulu transformer l'essai en lançant L'Heure du Monde, où là nous sommes vraiment intervenus comme consultantes extérieures. Donc on a formé leurs équipes en interne, puisque eux du coup, pour la première fois, on recrutait des personnes externes qui étaient vraiment dédiées à la production de L'Heure du Monde. Donc, on est venu les former en interne et on a posé les bases avec eux en termes d'identité sonore, d'écriture, de tonalité, de contenu journalistique. Et puis ensuite, on les a laissés prendre leur envol.
J'aimerais bien vous demander, est-ce que vous écoutez toujours des podcasts ? Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que de plus en plus, les gens à qui je pose cette question dans Génération Podcast me disent « Tu sais, Flora, j'en produis tellement, j'ai besoin de libérer un peu mes oreilles et de faire autre chose. » Donc, j'en écoute plus trop depuis que je crée des podcasts. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté ?
Ah, moi, j'aime toujours... C'est vrai qu'on manque toujours de temps, hein, c'est vrai, mais... Moi, quand j'ai des petits moments pour moi, moi, j'écoute des podcasts, notamment quand je vais courir. Bon, voilà, chacun trouve du temps. La dernière série que j'ai écoutée, qui m'avait été conseillée, c'est Panda, la voix du djihad, de France Inter. Donc, c'est une fiction.
Panda. C'est mignon, un panda. C'est comme un nounours, ça paraît inoffensif. Mais c'est une erreur. Il ne faut pas le sous-estimer, le panda. C'est un animal sauvage qui peut mordre aussi fort qu'un lion. Et nous, c'est ce qu'on a fait pendant des années. On l'a sous-estimé, notre panda. Et dans mon boulot, c'est une erreur mortelle.
Dans un quartier, oui, toujours bouclé, impossible de s'approcher de l'entrée du Bataclan à tous les quartiers.
En otage.
Pas maintenant, c'est les gars.
Les policiers et les CRS continuent de verrouiller les accès et on a toujours
en plein dans la foule en criant à la voix de barre avec des fusils à pompe, je crois.
Les ambulances foncent par dizaines vers le Bataclan dans le 11e arrondissement.
Et on dit qu'ils avaient des ceintures d'explosifs.
L'attaque, je vous le rappelle, aurait été effectuée par trois hommes. L'un d'eux serait arrivé dans un premier temps sur les.
Ah bah, bah.
Et il y en a un qui a dit vous avez tué nos frères en Syrie et nous on est là.
Du Bataclan, une lutte pour la survie s'engage.
Je m'appelle Karim. Je suis officier de renseignement. Karim, c'est peut-être pas mon vrai nom. Mais par contre, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est vrai. Panda, c'est un de ces Français qui se sont retournés contre le pays qui les a vus naître. Son histoire, personne ne la connaît, et pourtant, c'est un peu celle de tous les autres. Si je vous la raconte, c'est pour que vous compreniez comment on en est arrivé là.
Vraiment, c'était vraiment... Bon, évidemment, on est encore sur un sujet un peu police-justice, parce que c'est une fiction qui retrace l'histoire d'un djihadiste français, malheureusement très célèbre, qui est la voix des attentats de novembre 2015 à Paris. Et donc, il y a le début de son embrigadement, comment lui-même, il embrigade sa famille, comment tout le monde part. C'est très bien fait, c'est très prenant, donc il y a une forme aussi de suspense. Ce qui est plus étonnant, c'est vrai, c'est l'idée de... Bah quelque part, d'avoir des dialogues fictifs sur une personne réelle, c'est-à-dire qu'il réimagine ce qui s'est passé dans l'intimité familiale, quand il annonce que ça serait bien de partir en Syrie, quand sa femme ne veut pas. Donc voilà, et tout ça, en fait, le fil rouge, c'est un agent du renseignement qui repère très vite que cet homme embrigade sur son territoire et qu'il va partir et qu'il va avoir certainement un rôle, voilà, très important dans l'État islamique.
Et moi, j'en écoute beaucoup aussi. À des moments aussi très différents, enfin, dans les transports, en cuisinant chez moi, en marchant, parce que je marche beaucoup à Paris. Après, en fonction de ce que je fais et de mon contexte d'écoute, je ne vais pas du tout écouter les mêmes types de formats. Il y a des formats aussi qui me demandent plus de concentration. Mais là, j'ai écouté récemment un podcast que j'ai dévoré, mais vraiment, au lieu de mettre un épisode de Netflix un soir, j'ai juste dévoré le podcast. Ça s'appelle Sweet Bobby. C'est un podcast de Tortoise Media, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est une boîte de prod que je ne connaissais pas. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait complètement embrigader et manipuler pendant plus de 10 ans par une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, en fait, sur les réseaux sociaux.
How much do you know about the person you love?
I love you, sweet.
And who they really are?
I wish I was there with you.
This is a story about a young couple who fall for each other despite everything.
When it comes to matters of the heart, I said we can all be a bit crazy sometimes.
And about how their love turned into something much darker.
She went from being a vibrant person to being a shadow of herself. She was literally a shadow.
And I kept screaming, why? You've stolen 10 years of my life. How could you be so sick?
It's a story of manipulation on an epic scale.
This case, oh my God, where to start? What the hell has been going on?
If you put it on the television, there'd be a lot of people that would say it was completely unrealistic.
It's about who we are online. How little we know.
So what do you mean you don't trust yourself, sweet?
And uncovering a 10-year scam.
The only thing I have is truth on my side.
I'm Alexi Mostris. I'm a journalist at Tortoise Media. And this is Sweet Bobby.
Oh, sweet.
Sweet.
Sweet. What's wrong, sweet?
This is killing me. I love you.
Voilà, qui s'est créé une fausse identité et cette femme s'aperçoit plus de 10 ans plus tard qu'elle a été manipulée et je n'en dis pas plus parce qu'il y a aussi plein de retournements au fil des épisodes et c'est donc un journaliste qui la rencontre et qui retrace un peu ce récit avec aussi cette volonté et cette quête de trouver qui est cette personne qui l'a manipulée et pour quelles raisons.
Est-ce qu'il y a un podcast qui est sorti, je ne sais pas, depuis qu'on connaît les podcasts, que vous auriez adoré produire vous-même ? Vous vous êtes dit, ah, ça aurait été génial de, je sais pas, de se pencher sur ce sujet, ou la manière dont ça a été raconté était super innovante, j'aurais adoré faire un truc comme ça. Ou... Est-ce qu'il y a des podcasts qui vous ont fait cet effet-là ?
Il y a un sujet, vraiment un podcast là aussi que j'ai adoré. Qui s'appelle The Missing Crypto Queen, qui est un podcast de la BBC. Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé de travailler sur cette affaire qui est, en gros, c'est une femme bulgare qui, au début des années 2000, affirme et crie haut et fort qu'elle va complètement révolutionner le système des crypto-monnaies en inventant une nouvelle crypto-monnaie qui, contrairement aux crypto-monnaies qu'on connaît et qui cible plutôt... un public assez élitiste. Là, l'idée, c'est vraiment de démocratiser la crypto-monnaie et de se dire, voilà, pour les pays et les personnes qui n'ont pas accès, par exemple, à une carte bancaire, ça va être un nouveau mode de paiement, bref. Et cette femme a une aura incroyable. Elle arrive sur scène, elle donne des conférences, il y a plein de gens qui viennent. Elle a toujours du rouge à lèvres, elle est hyper glamour, des robes et des bijoux incroyables. Bref, et du jour au lendemain, cette femme disparaît en ayant emporté évidemment au passage avec elle des millions de dollars. Et ce journaliste de la BBC mène une enquête sur les traces de cette femme-là. Ce que je trouve très fort, c'est qu'il a réussi à rendre cette affaire très, très technique, très complexe, des crypto-monnaies, etc. Il a réussi à la rendre très humaine. Et moi, j'aurais adoré faire ça. J'aurais adoré faire cette histoire-là.
Et la fiction, c'est un format qui nous branche bien, parce que quand on fait des enquêtes au long cours comme ça, souvent on se dit mais c'est incroyable, en fait ça aurait pu faire une très très bonne fiction. Des fois les personnages réels dépassent les personnages de fiction avec des histoires folles qui s'entremêlent avec des enjeux. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'en rencontrant tous ces gens, ça, c'est inspirant pour... recréer quelque chose de très différent. Et puis par ailleurs, le réel, travailler entre le documentaire et l'investigation, ça, nécessairement, c'est compliqué quand on est journaliste, parce que ça nous demande, on l'a dit, une certaine rigueur, une éthique. Ça demande de réfléchir beaucoup. On est en lien avec des personnages qui ont souffert, des personnages avec lesquels on n'est pas d'accord. Voilà, il se passe énormément de choses émotionnellement et journalistiquement. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la fiction peut être reposante entre deux enquêtes, parce qu'on peut y mettre ce qu'on veut et on fera de mal à personne et on ne se trompera pas non plus. Enfin, voilà.
Ah ah, je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Adèle Imbert et Émilie Denêtre de Insider Podcast pour cet échange que j'ai trouvé super intéressant et généreux de leur part. Bien entendu, je vous remercie vous aussi également de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Et si le podcast vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a des manières hyper simples de nous filer un petit coup de main pour gagner en visibilité. Abonnez-vous dans un premier temps sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour nous écouter là tout de suite. Donnez des étoiles quand vous en avez l'opportunité. Vous pouvez le faire notamment sur Apple Podcasts et Spotify. Et laissez des avis ou partagez les épisodes autour de vous. Ça nous aide énormément. On en est extrêmement reconnaissants.
La semaine prochaine, vous retrouverez des recommandations podcast de Vincent Zuresco, qu'on appelle entre nous Zou. Vous ne devriez pas être déçus. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel entretien de l'autre côté du micro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.